actualités du pape François, c'est maintenant, c'est sur Radio Maria France et on va commencer par bien sûr les paroles du pape lors de l'Angélus de dimanche dernier. Et nous mentionnerons dans cette actualité aussi quelques paroles du Saint-Père laissées lors des différentes messes que le pape célèbre à Sainte-Marthe. Et le pape François qui poursuit sa catéchèse, son audience lors de l'audience générale, de la catéchèse sur les béatitudes. Alors, bonjour à tous, dans cette actualité du pape François, et donc nous commençons par dimanche dernier, l'Angélus, et le Saint-Père qui a commenté bien sûr l'évangile de ce jour, c'était donc la résurrection de Lazare. Et d'ailleurs le pape François qui avait lancé aussi après l'Angélus un appel pour la paix dans le monde et pour la condition de vie dans les prisons en ce temps de pandémie. Alors le Saint-Père qui est donc revenu sur un commentaire de cet évangile parlant de la résurrection de Lazare. Lazare qui est donc, comme vous le savez, frère de Marthe et de Marie, tous très proches de Jésus. Alors le pape François de commenter la tristesse de Jésus qui éclate en larmes dans ce passage, dans ce récit de l'Évangile. Et avec ce trouble dans son cœur, Jésus se rend à la tombe. Il remercie le Père qui l'écoute toujours, ouvre le tombeau et crie haut et fort « Lazare, viens dehors !» Et Lazare qui sort, ses pieds et ses mains attachés avec des bandages et son visage enveloppé dans un linceul. Le Saint-Père qui commente en disant que nous touchons du doigt que Dieu est la vie et donne la vie, mais il prend sur lui le drame de la mort. Alors certes, Jésus aurait pu éviter la mort de son ami Lazare, mais il voulait faire sienne notre douleur pour la mort de nos proches, et surtout, il voulait montrer la domination de Dieu sur la mort. Oui, dans ce passage de l'Évangile, ajoute le Saint-Père, nous voyons que la foi de l'homme et la toute-puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, sont recherchés et finalement se rencontrent. Alors c'est comme un double chemin, la foi de l'homme et la toute-puissance de l'amour de Dieu qui se cherche et se rencontre. Oui, Jésus aujourd'hui encore nous répète « Enlevez la pierre !» Dieu ne nous a pas créés pour la tombe, il nous a créés pour la vie, belle, bonne, joyeuse. Mais la mort est entrée dans le monde par l'envie du diable, dit le livre de la sagesse, et Jésus-Christ est venu pour nous libérer de ses liens. Saint-Père d'ajouter que nous sommes donc appelés à enlever les pierres de tout ce qui a le goût de la mort. Par exemple, l'hypocrisie avec laquelle la foi est vécue, c'est la mort. La critique destructrice des autres, c'est la mort. L'offense, la calomnie, c'est la mort. La marginalisation des pauvres, c'est la mort. Le Seigneur nous demande d'enlever ces pierres du cœur, et alors la vie fleurira encore autour de nous. Le Christ est vivant, et celui qui l'accueille et adhère à lui entre en contact avec la vie. Sans Christ, ou en dehors du Christ, non seulement la vie n'est pas présente, mais on retombe dans la mort. Oui, le Saint-Père de conclure en nous disant que la résurrection de Lazare est également un signe de la régénération qui s'opère dans le croyant par le baptême, avec une pleine insertion dans le mystère pascal du Christ. Par l'action et la force du Saint-Esprit, le chrétien est une personne qui marche dans la vie comme une nouvelle créature, une créature pour la vie et qui va vers la vie. Et dans cette actualité du pape François, c'était donc ce lundi 30 mars à 7h du matin, le pape a offert donc sa messe matinale, notamment pour les personnes qui n'arrivent pas à réagir face à la pandémie. Et au début de cette messe, en la chapelle du Saint-Esprit de la maison Sainte-Marthe du Vatican, le pape a indiqué l'intention pour laquelle il offrait la célébration, en disant « Nous prions aujourd'hui pour tant de personnes qui ne peuvent pas réagir. Elles sont effrayées par cette pandémie. Que le Seigneur les aide à se lever, à réagir pour le bien de toute la société, de toute la communauté. » Oui, chaque matin et au début de chaque messe, le Saint-Père indique une intention spéciale. Les malades, leurs familles, les soignants, les bénévoles, les autorités, les personnes qui continuent d'assurer les services essentiels de la société. Toujours lors de cette messe à Sainte-Marthe, le pape François a invité chacun à réfléchir sur ses péchés. Remercie Dieu si tu les trouves, a-t-il dit, et prie avec confiance dans la miséricorde de Dieu, prie pour le pardon. Oui, dans cette homélie, le pape François avait commenté les deux lectures de cette journée à la lumière du psaume « Deux femmes, Suzanne, dans le livre de Daniel, et la femme adultère dans l'évangile de Jean. Humainement désespérées et toutes les deux condamnées à mort, elles vont faire l'expérience de la vérité du psaume. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Alors la première, a expliqué le Saint-Père, se confie explicitement à Dieu et le Seigneur intervient. La seconde, dans l'évangile de Jean, la pauvre, elle sait qu'elle est coupable, humiliée devant tout le peuple. L'évangile ne le dit pas, mais elle priait certainement dans son cœur, elle demandait de l'aide. Et que fait le Seigneur avec ces personnes ? La femme innocente, il la sauve, il lui fait justice. Il s'agit bien sûr de Suzanne. La femme pécheresse, dans l'évangile de Jean, il lui pardonne. Et le Saint-Père de conclure, chacun de nous a sa propre histoire, ses propres péchés, alors que chacun de nous, en regardant Jésus agir dans ces cas, se confie à la miséricorde de Dieu. Alors ceux qui privilégient l'économie risquent de provoquer un génocide viral. Oui, le pape François qui a salué donc les mesures exemplaires prises par certains gouvernements avec des priorités bien définies pour défendre la population face au Covid-19. Et c'est ce qu'il avait écrit donc dans une lettre manuscrite qui était adressée le 28 mars au président du comité panaméricain des juges pour les droits sociaux et la doctrine franciscaine. Le pape François a évoqué une réunion avec le dicastère pour le développement humain intégral à laquelle il a participé vendredi 27 mars afin de réfléchir sur le présent et sur l'après de cette crise. Il est important de se préparer pour l'après, a souligné le Saint-Père. Cette réunion avait permis donc de discuter de certaines conséquences auxquelles il faut faire face, la faim, surtout pour les personnes sans emploi permanent, la violence, l'apparition d'usuriers, qui sont le véritable fléau de l'avenir social, les criminels déshumanisés, etc. Actualité du pape François, nous en venons maintenant à ce mardi 31 mars. Quand nous regardons la croix, a fait observer le Saint-Père dans son homélie, il faut seulement contempler, prier et remercier. Oui, le Saint-Père qui a expliqué le lien entre le passage du livre des Nombres, qui était donc la première lecture, dans laquelle Dieu invite Moïse à dresser un serpent en métal au sommet d'un mât pour que les Israélites mordus par les serpents le regardent et soient sauvés, et l'évangile de Jean, où Jésus annonce que le Fils de l'homme sera élevé sur la croix. Alors le Saint-Père de nous dire dans cette homélie que dans l'Apocalypse, le diable est appelé serpent des origines, celui qui depuis le début mord, envenime, détruit et tue. C'est pour cela qu'il ne peut pas réussir. S'il veut réussir comme quelqu'un qui propose de belles choses, c'est par l'imagination. Nous les croyons et c'est ainsi que nous péchons. C'est ce qui s'est produit pour le peuple d'Israël. Il ne supportait pas le voyage. Il était fatigué. Et le peuple a dit à Dieu et à Moïse, « C'est toujours la même musique, non ? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain, ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable, la manne. » Et l'imagination, dit le Saint-Père, nous l'avons lu ces jours-ci, retourne toujours en Égypte. Mais là-bas, nous étions bien, nous mangeons bien. Et il semble aussi que le Seigneur ne supportait pas le peuple à ce moment-là. Il s'est mis en colère. Oui, la colère de Dieu qui se manifeste parfois. Alors le Seigneur envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordaient les gens et les faisaient mourir. Alors on sait qu'à cette époque, le serpent est toujours l'image du mal. Le peuple voit dans le serpent le péché, il voit dans le serpent celui qui a fait le mal. Et il va voir Moïse et lui dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne, de nous les serpents. » Et ce peuple se repent. C'est l'histoire dans le désert. On sait que Moïse va prier pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Alors cela nous fait réfléchir, nous dit le Saint-Père. Il pose une question, mais n'est-ce pas de l'idolâtrie? Il y a là le serpent, une idole qui me donne la santé. On ne comprend pas très bien. Alors logiquement, on ne comprend pas, parce que c'est une prophétie. C'est l'annonce de ce qui va arriver. Parce que nous entendons aussi comme une prophétie de quelque chose qui est proche dans l'Évangile. Voici le passage. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. » Oui, Jésus élevé sur la croix. Moïse fait un serpent et l'élève, et Jésus sera élevé comme le serpent pour donner le salut. Mais le cœur de la prophétie, c'est précisément que Jésus s'est fait péché pour nous. Il n'a pas péché, il s'est fait péché. Nous devons, a dit le Saint-Père, nous habituer à regarder le crucifix dans cette lumière qui est la plus vraie, c'est la lumière de la rédemption. En Jésus fait péché, nous voyons la défaite totale du Christ. Il ne fait pas semblant de mourir, il ne fait pas semblant de souffrir, seul, abandonné. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Un serpent. Je suis élevé comme un serpent. Comme celui qui est tout entier péché. Ce n'est pas facile à comprendre, nous dit le Saint-Père, mais si nous réfléchissons, nous ne parviendrons jamais à une conclusion. La seule conclusion qui s'impose, contempler, prier et remercier. Lors de ce 1er avril, en la chapelle du Saint-Esprit au Vatican, l'intention du Saint-Père, c'était donc de prier pour tous ceux qui travaillent dans les médias. Là, je cite, je voudrais que nous prions pour tous ceux qui travaillent dans les médias, qui travaillent pour communiquer aujourd'hui, pour que les gens ne se retrouvent pas trop isolés, pour l'éducation des enfants, pour aider à supporter ce temps de fermeture. Et lors de cette messe, le pape François a également mentionné donc le 8e chapitre de Jean, discussion très très forte entre Jésus et les docteurs de la loi, et surtout on cherche à montrer l'identité de chacun. Alors Jean, dans ce texte, cherche à nous faire approcher de cette lutte pour l'identité de chacun, celle de Jésus, comme celle de l'identité des docteurs. Et dans ce passage de l'Évangile, Jésus les coince en leur montrant leurs contradictions, et eux, à la fin, ne trouvent pas d'autre issue que l'insulte. C'est une des pages les plus tristes, nous dit le Saint-Père, c'est un blasphème. Ils insultent la Vierge Marie. Mais en parlant de l'identité, Jésus s'adressait aux Juifs qui avaient cru. Il leur conseille « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Elle revient, cette parole si chère au Seigneur, qu'il la répétera plusieurs fois, ensuite à la scène « Demeurez, demeurez en moi. Demeurez dans le Seigneur. » Le Seigneur ne dit pas « Étudiez bien, apprenez bien les argumentations. » Cela, il le tient pour acquis. Mais il va à la chose la plus importante. La plus importante, celle qui est la plus dangereuse pour la vie, si on ne le fait pas. Demeurez, demeurez dans ma parole. Et ceux qui demeurent dans la parole de Jésus tiennent leur identité chrétienne. Cette identité, c'est celle des disciples. L'identité, nous dit le Saint-Père, l'identité chrétienne n'est pas une carte qui dit « je suis chrétien », une carte d'identité, non. C'est le fait d'être disciple. Toi, si tu demeures dans le Seigneur, dans la parole du Seigneur, dans la vie du Seigneur, tu seras un disciple. Si tu ne demeures pas, tu seras quelqu'un qui sympathise avec la doctrine, qui suit Jésus comme un homme qui fait beaucoup de bienfaisance, qui est très bon, qui a les bonnes valeurs. Mais c'est le fait d'être disciple. C'est ça, la véritable identité du chrétien. Le disciple est un homme libre parce qu'il demeure dans le Seigneur. Alors le Saint-Père de conclure cette petite homélie, je demande au Seigneur de nous faire connaître cette sagesse de demeurer en lui et de nous faire connaître cette familiarité avec l'Esprit. L'Esprit Saint nous donnera la liberté. Voilà l'onction. Quiconque demeure dans le Seigneur est disciple, et le disciple est un oint par l'Esprit, qui a reçu l'onction de l'Esprit et l'a fait progresser. Voilà la voie que Jésus nous fait voir pour la liberté et aussi pour la vie. Et le fait d'être disciple, conclut le Saint-Père, c'est l'onction que reçoivent ceux qui demeurent dans le Seigneur. Et nous en venons maintenant à l'audience générale du mercredi. Le pape donc reprend le cycle de catéchèses sur les béatitudes et il a médité la sixième des béatitudes, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Le Saint-Père qui cite un psaume, le psaume qui dit « Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. » Ce langage, dit le Saint-Père, manifeste la soif d'une relation personnelle avec Dieu, pas mécanique, pas un peu nébuleuse, non, personnelle, que le livre de Job exprime aussi comme le signe d'une relation sincère. Comment arriver à l'intimité, à connaître Dieu de nos yeux? Le pape François nous dit qu'on peut penser aux disciples d'Emmaüs, par exemple, qui ont le Seigneur Jésus à leur côté, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et finalement, le Seigneur ouvrira leurs yeux au terme d'un chemin qui culmine avec la fraction du pain et qui avait commencé par un reproche. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Bon, ça c'est le reproche du début. Mais voilà l'origine de leur cécité, nous dit le Saint-Père. Leur cœur sans intelligence est lent. Et quand le cœur est sans intelligence et lent, on ne voit pas les choses. On voit les choses comme dans le brouillard. C'est là qu'est la sagesse de cette béatitude. Pour pouvoir contempler, il est nécessaire de rentrer en soi et de faire de la place à Dieu, parce que, comme le dit saint Augustin, Dieu est plus intime à moi-même que moi-même. C'est dans les confessions. Oui, pour voir Dieu, le pape François nous dit qu'il ne sert à rien de changer de lunettes ou de point d'observation, ni de changer d'auteur théologique pour enseigner le chemin. Il faut libérer son cœur des mensonges intérieurs qui génèrent nos péchés. Parce que les péchés changent la vision intérieure, ils changent l'évaluation des choses. Ils font voir des choses qui ne sont pas vraies, ou du moins qui ne sont pas aussi vraies. Il est donc important de comprendre ce qu'est la pureté du cœur. Et pour cela, il faut se souvenir que pour la Bible, le cœur ne consiste pas seulement dans les sentiments, mais qu'il est le lieu le plus intime de l'être humain, l'espace intérieur où une personne est elle-même. Et l'évangile de Matthieu affirme « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles seront grandes les ténèbres. Cette lumière est le regard du cœur, la perspective, la synthèse, le point à partir duquel se lit la réalité. » Mais, ajoute le Saint-Père, que signifie vraiment un cœur pur ? Celui qui a le cœur pur vit en présence du Seigneur, gardant dans son cœur ce qui est digne de la relation avec lui. C'est seulement ainsi qu'il possède une vie unifiée, linéaire, qui n'est pas tortueuse, qui est simple. Le cœur purifié est donc le résultat d'un processus qui implique une libération et un renoncement. Celui qui a le cœur pur ne naît pas comme cela. Il a vécu une simplification intérieure, en apprenant à renier le mal en soi, ce qui, dans la Bible d'ailleurs, s'appelle la circoncision du cœur. Et le Saint-Père d'ajouter que cette purification intérieure implique la reconnaissance de cette part du cœur qui est sous l'influence du mal. Oui, reconnaître la part mauvaise, la part assombrie par le mal, pour apprendre l'art de se laisser toujours enseigner et conduire par l'Esprit Saint. Le chemin, à partir du cœur malade, du cœur pécheur, du cœur qui ne peut pas bien voir les choses parce qu'il est dans le péché, jusqu'à ce que la plénitude de la lumière du cœur fasse son œuvre, et cette œuvre, c'est celle de l'Esprit Saint. Oui, conclut le Saint-Père dans cette vision béatifique, il y a une dimension future, eschatologique, comme dans toutes les béatitudes. C'est la joie du royaume des cieux vers lequel nous allons. Mais il y a aussi une autre dimension. Voir Dieu veut dire comprendre les desseins de la Providence dans ce qui se produit, reconnaître sa présence dans les sacrements, sa présence dans les frères, surtout ceux qui sont pauvres et qui souffrent, et le reconnaître là où il se manifeste. Oui, cette béatitude, nous dit le Saint-Père, est un peu le fruit des précédentes. Si nous avons écouté la soif du bien qui habite en nous, et si nous sommes conscients que nous vivons de la miséricorde, commence alors un chemin de libération qui dure toute la vie et conduit jusqu'au ciel. C'est un travail sérieux, nous dit le Saint-Père, un travail que fait l'Esprit-Saint si nous lui donnons de la place pour qu'il le fasse, si nous sommes ouverts à l'action de l'Esprit-Saint. C'est pourquoi, conclut le Saint-Père, nous pouvons dire que c'est une œuvre de Dieu en nous, dans les épreuves et dans les purifications de la vie. Et cette œuvre de Dieu et de l'Esprit-Saint conduit à une grande joie, à une véritable paix. N'ayons pas peur, ouvrons les portes de notre cœur à l'Esprit-Saint pour qu'il nous purifie et nous conduise sur ce chemin vers la plénitude de la joie. Amis auditeurs de Radio Maria France, c'était l'actualité du pape François. Et je vous retrouve donc jeudi prochain, même heure, 17h.